France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Que c'est difficile parfois de trouver les mots après un fait aussi traumatique que la mort d'un professeur mort dans des conditions épouvantables. Après, et c'est encore pire, beaucoup de mensonges autour de son cours. Que c'est difficile parfois de faire quelque chose de simple, se poser avec son professeur, se poser devant les élèves, discuter tranquillement de liberté d'expression, de laïcité, une des choses les plus simples du monde et aussi les plus difficiles à expliquer sans doute. L'année dernière, on était au retour des vacances de la Toussaint et ce laps de temps entre la mort de Samuel Paty et la reprise des cours n'avait pas forcément aidé. Aujourd'hui, nous sommes un an après. Demain, c'est une journée hommage. Alors, qu'est-ce que vous direz à vos élèves? Qu'est-ce que vous avez préparé? Comment avez-vous imaginé cette journée et le temps que vous consacrerez à l'hommage à votre collègue? Plus encore, qu'est-ce qui a changé dans votre exercice de l'enseignement en un an? Est-ce que vous parlez plus, peut-être mieux, à vos élèves de liberté d'expression, de laïcité, de tous ces thèmes-là? Est-ce qu'au contraire, il y a des conversations que vous fuyez? Est-ce que vous vous êtes surpris ou surprise vous-même à vous auto-censurer? Est-ce qu'il y a des terrains sur lesquels vous n'allez plus? Venez nous le raconter ce soir, c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Arnaud, c'est vous le premier. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Arnaud.
Eh bien, voilà, donc je me présente, je suis professeur d'histoire géographie dans un lycée. Alors bon, il se trouve que l'emploi du temps faisant, je ne serai pas en face de mes élèves pendant l'hommage à Samuel Paty, mais ceci dit, j'étais présent l'année dernière pour recueillir leurs questions. Et donc finalement, pour faire écho à ce que vous expliquiez en préambule, je dirais effectivement que depuis en fait la tuerie de Charlie Hebdo, j'ai effectivement pu me rendre compte de l'importance que ça avait, ce genre de questions ultra sensibles, ce que j'avais pas perçu jusque-là. Et bah, finalement, depuis, effectivement, j'insiste beaucoup plus sur la question des droits humains et sur les questions de la laïcité, mais pas forcément dans des séquences spécifiquement orientées sur ces deux notions, mais plutôt en fait en les distillant au gré des différentes leçons qui se présentent dans mes cours d'histoire et de géographie.
Est-ce que vous avez l'impression que les élèves sont demandeurs, Arnaud, et que justement quand l'actualité s'en mêle ou quand il y a des choses traumatiques comme Samuel Paty, alors l'année dernière vous n'étiez pas là, vous nous l'avez dit, mais est-ce que les élèves sont demandeurs dans ces moments où l'actualité devient plus forte que le reste?
Alors déjà, ils sont effectivement demandeurs d'informations parce que parfois tout ce qui est dit dans les médias traditionnels est parfois compliqué, difficile d'accès pour les élèves. Donc on a toujours besoin de revenir sur les faits tels qu'ils se sont déroulés, ce qui en soi déjà n'est pas simple. Et ensuite, effectivement, les élèves sont demandeurs parce que effectivement tout cela les concerne et les interpelle. Et ils ont des questions légitimes auxquelles on se doit de répondre. On peut pas, ni en tant qu'adulte et encore moins en tant qu'enseignant, refuser les questions des élèves.
Est-ce qu'il y a, tout à l'heure, je disais que je m'interrogeais sur le fait que certains d'entre vous parfois avaient des réflexes d'autocensure, même malgré eux. Est-ce que vous vous êtes surpris vous-même avec ce genre de réflexe ou pas?
J'ai pris pas mal de recul par rapport à ça. Alors, il y a effectivement des finalement le seul document sur lequel je me suis auto-censuré sont justement toutes les caricatures qui pourraient mettre en scène Mahomet par exemple. Parce que potentiellement c'est celles qui vont créer le plus de préoccupations et qui pourraient le plus dégénérer en conflit. Et en fait, à partir du moment où l'élève est crispé ou arc-bouté sur ses positions, finalement, on ne peut plus enseigner. L'élève est plus disponible pour ça.
Merci Arnaud, merci vraiment pour ce témoignage qui nous permet d'entamer cette discussion. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h, Carole Zerbib est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes proviseure adjointe au lycée Voltaire à Paris, vous êtes membre de l'exécutif national du SNPDEN UNSA. Gilles Roumieux est avec nous également. Bonsoir Monsieur Roumieux.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie du collège Jean Racine et vous êtes à Alès, dans le Gard. L'un comme l'autre, Carole Zerbib, d'abord, sur ce témoignage d'Arnaud, qui est intéressant en deux points. Alors oui, il faut bien sûr en parler plus. Et oui, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on met pas sur le tapis parce qu'on se dit qu'on pourra l'expliquer différemment.
Alors, d'abord, moi, en tant que personnel de direction, je suis là aussi pour accompagner et soutenir les enseignants. Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'ils ne sont pas seuls, que les équipes de direction sont à leur côté et que c'est le travail de l'équipe éducative que de travailler ces questions. L'enseignant est certes seul dans sa classe avec les élèves, mais c'est la communauté éducative qui doit aussi traiter de ces questions.
Et si vous avez un Arnaud devant vous, alors qui serait l'un des professeurs de votre établissement, vous lui dites « fais comme tu le sens, fais à ta guise, fais comme tu es le plus à l'aise, en fait », qu'est-ce que vous lui dites ?
Oui, je dirais de faire comme il peut et comme il veut, ça c'est sûr, mais il faut qu'il sache qu'il y aura des relais à l'extérieur de la classe. Voilà, soit par des projets que nous pouvons mener, soit parce qu'on va travailler le 9 décembre avec les élèves. Le 9 décembre, c'est la journée anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Voilà, il faut que les enseignants sachent qu'il peut y avoir des relais à l'extérieur de la classe pour travailler sur ces questions.
Et vous avez le sentiment que dans les deux sens, chez vous, les profs étaient demandeurs d'explications, d'aide, pas une sorte de vade-mecum, mais enfin quand même, savoir sur quel terrain on va aller. Et les élèves étaient demandeurs aussi, de chaque côté. Est-ce que vous avez eu ce sentiment partagé ?
Oui, parce que les enseignants étaient demandeurs, parce que l'assassinat de Samuel Paty, d'ailleurs, je voudrais quand même qu'on ait une pensée pour cet enseignant. Il y aura un hommage demain. Oui, ils étaient demandeurs parce qu'il y a eu un choc quand même terrible. C'est la première fois qu'un enseignant est assassiné pour avoir fait son travail. Donc, il peut y avoir une inquiétude, même une peur des enseignants d'aborder ces questions en classe. Il y a d'ailleurs eu, juste après l'assassinat de Samuel Paty, un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, qui a montré les conséquences de l'assassinat de Samuel Paty sur le moral des enseignants. Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils étaient démunis face à leurs élèves et qu'il y avait quand même une autocensure pour aborder certaines questions, particulièrement certaines questions liées à la religion. Et j'ai pu le voir aussi dans mes conversations avec certains enseignants qui ont pu me dire qu'il y a des sujets qu'ils n'osaient plus aborder en classe.
Il y avait d'autres choses extrêmement intéressantes dans ce sondage pour la Fondation Jean Jaurès Ipsos, notamment sur la perception de la laïcité que nous avons, nous, les adultes, donc les professeurs, et la perception qu'ils ont, eux, qui peuvent être quelque chose de très différent. Je voudrais quand même me tourner vers Gilles Roumieux juste avant. Monsieur Roumieux, vous aviez déjà, avant la mort de Samuel Paty, travaillé autour de ces questions-là. Vous êtes d'ailleurs le récipiendaire, et on vous félicite vraiment pour ça, du prix Initiative Laïque pour une brochure qui s'appelle « Touche pas à mon professeur » que vous avez fait à la suite de la mort de Samuel Paty. Mais est-ce que chez vous, précisément parce que vous aviez déjà embrassé ces thèmes-là, qu'on en parlait beaucoup dans votre cours, est-ce que vous avez eu le sentiment que la discussion était tout autre, en fait, par rapport à certains de vos collègues ?
Nous, ce qu'on note dans nos établissements, c'est quand même le manque de formation des différents personnels sur les thèmes de la laïcité, puisque lors de l'hommage le 2 novembre dernier, avec un autre collègue d'histoire et géographie, on a essayé de poser des bases et des principes sur ce qu'était la laïcité, mais aussi les principes et les valeurs de la République. Et c'était, il y a un manque de formation sur cette thématique-là. Et je crois que le ministère de l'Éducation nationale devrait se pencher sur cette problématique.
Il y a rien de plus. Moi, j'ai l'impression, Monsieur Roumieux, je vous donnerai la parole dans un instant, Carole Zerbide. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, c'est la chose la plus difficile. J'ai l'impression que si on demandait à 40 personnes dans la rue, c'est quoi pour vous la laïcité, on aurait 40 réponses différentes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, de la part de l'Éducation nationale, une réponse, en fait, qui servira de base ?
Non, je pense qu'il faut évidemment il faut une base pour pouvoir construire, mais dans l'enseignement on enseigne ce que l'on est, donc je pense que la grande facilité de l'enseignant, c'est sa liberté pédagogique qui permet de mettre les élèves en face de la laïcité, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que la pédagogie de projet pour pouvoir aborder ces thèmes. Et surtout, moi, ce qui m'importe le plus, c'est de dans des sujets pareils, c'est de donner la parole aux élèves, de la confronter, de la mettre en lumière, de la mettre en relief pouvoir ouvrir le débat et pour pouvoir construire quelque chose de commun.
Et moi, ce que je trouve intéressant, y compris dans votre travail, dans cette fameuse brochure « Tous pas mon professeur », c'est que parfois, c'est difficile de mettre des mots, surtout quand on parle de jeunes gens qui sont de très très jeunes adultes, des post-adolescents. Parfois, c'est difficile de mettre des mots. Comment vous avez le sentiment, vous, monsieur Roumieux, que vous avez réussi à les faire sortir, ces mots-là, en fait, pour que les élèves expriment des choses?
Bon, d'abord, la brochure qui a été réalisée, j'ai donc posé 4 questions clés pour pouvoir organiser une réflexion cohérente. Et puis, les élèves sont très demandeurs de s'exprimer. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont besoin de la parole et ils l'ont pris très très facilement. Ils ont posé des mots qui étaient justes, vrais, qui pas forcément une définition propre de la laïcité, mais qui montrent que le pays dans lequel nous vivons, les valeurs auxquelles nous sommes attachés, c'est un tout, et que ce que a dit cette brochure, à travers leurs mots, c'est que ça pourrait se résumer en 3 phrases, et c'est vraiment quelque chose de très troublant et de très réjouissant, et c'est porteur d'espérance, c'est que la loi, elle sera toujours au-dessus de la foi, que chacun est considéré de la même manière sans distinction, et que c'est cette respect de la différence qui permet d'entretenir la fraternité. Et ce qui était très touchant dans la classe et dans ce projet que j'ai mené, c'est qu'avant de constituer la brochure et de l'imprimer, au début de chaque heure de cours, je reprenais une de leurs phrases clés, et puis il y avait une discussion qui s'opérait entre nous, et ça a créé une espèce d'osmose, une espèce de fraternité, une espèce de communion qui permettait de regarder l'autre d'un autre œil. Mais c'est en fait ça la République, c'est que en son sein, on arrive à réunir des personnes diverses, mais qui sont réunies autour de principes et de valeurs fondamentales.
On va repartir au standard dans un instant. Écoutez Nathalie, parce qu'elle revient sur l'un des aspects que vous avez évoqué, monsieur Roumieux. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors bon, j'entends tout ce que vous dites et je trouve ça merveilleux. J'ai l'impression d'être au pays des bisounours parce que moi, ce qui me... Alors évidemment, la laïcité, ça reste en principe...
Alors ça existe, hein. Oui, Nathalie, oui, juste mais... au passage, le travail de Gilles Roumieux, il existe. C'était pas juste
non,
une histoire
non,
de bisounours.
Non, je critique pas du tout ce travail-là, loin de là. Moi, je suis professeur de français, donc je l'aborde à travers les textes, par exemple à travers les philosophes des Lumières, hein, les origines de la pensée laïque et de son application, et puis je m'appuie sur la loi, sur la loi, c'est-à-dire sur des faits, sur la science, vous voyez, sur ce qui existe, ce qu'on doit faire, pas faire. Bon, la discussion avec les élèves l'année dernière a eu lieu, sans difficulté d'ailleurs. Moi, ce qui me frappe à l'issue de ce drame, c'est la démission d'institution. L'institution n'a rien fait pour les professeurs, pour restituer leur autorité, pour redonner, je veux dire, un poids aux enseignants par rapport aux parents. Moi, c'est ça qui me choque énormément. La discussion avec les élèves, on peut la tenir, c'est notre métier. Ça, c'est pas quelque chose, moi, qui me perturbe, et je continue de le faire. Mais ce qui me dérange, c'est que l'institution n'a pas pris la mesure de la solitude dans laquelle on est et de l'absence de poids que l'on a face aux familles.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Nathalie. Carole Zerbi, 2 choses. La première, c'était la remarque de Gilles Roumieux il y a un instant. 1, manque de formation. Là-dessus, qu'est-ce qu'il faut comme formation, en fait, déjà, de toute façon, à la base? On va venir à ce que soulevait Nathalie dans un instant. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il vous a manqué? Qu'est-ce qui vous manque toujours en termes de formation pour aborder ces thèmes-là?
Effectivement, on aurait attendu un plan de formation continue et initiale de grande ampleur. Alors c'est vrai que à la suite du rapport Aubin, Jean-Pierre Aubin, inspecteur général, avait dans son rapport indiqué que seuls 6% des personnels de l'éducation étaient formés à l'enseignement des valeurs de la République. Donc il faut absolument mettre l'accent sur cette formation. Il y a des choses qui commencent à être faites. Un an après, hein, je crois savoir là qu'il va y avoir une formation de formateurs aux valeurs de la République, 1000 formateurs aux valeurs de la République. Mais il faut absolument que cette formation ait lieu rapidement. Ce qu'on attend, c'est que les enseignants soient formés, et tous les enseignants, pas seulement les enseignants d'histoire géo, de lettres et de philosophie. Il faut que tous les enseignants soient formés à la laïcité et à la transmission des valeurs de la laïcité. Ça ne peut pas être seulement quelques enseignants qui doivent transmettre ces valeurs. Il faut que le corps enseignant, à partir du moment où on est professeur, quelle que soit la discipline, on doit pouvoir transmettre ces valeurs et faire vivre ces valeurs dans son enseignement.
Le deuxième point qui est abordé, c'est celui de Nathalie qui parle alors non seulement de formation, mais pas seulement, qui parle de du poids de l'institution, que l'institution devait mettre à l'intérieur de ces problématiques. Elle parle de démission de l'institution. Elle dit remettre le poids de l'enseignant là où il doit être, c'est-à-dire par rapport aux parents. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit chez vous au SNPDEN ?
Je ne pense pas que l'institution ait complètement démissionné. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Après, je crois que rétablir l'autorité des professeurs, je crois qu'on s'y emploie chaque jour, hein, en ne banalisant aucune atteinte aux enseignants, tous les manques d'irrespect ou toutes les difficultés que les professeurs pourraient nous remonter dans la classe ne sont pas banalisées. Je pense que tous les chefs d'établissement en tiennent compte, sanctionnent s'il le faut, voient les familles, parce que je crois que c'est important aussi de dialoguer avec les familles et d'expliquer les choses aux familles. Voilà.
Gilles Roumieux, est-ce que vous, dans votre travail, vous avez parfois, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, eu affaire aux parents qui disent « est-ce que vraiment c'est une bonne idée de traiter ces thèmes-là ? C'est pas comme ça que vous auriez dû le faire, etc. » Ou est-ce que, de ce point de vue-là, pas du tout, vous avez eu un champ intégralement libre ? J'espère qu'il n'a pas disparu, Gilles Roumieux.
Non, j'ai pas disparu, mais je suis revenu avec vous. J'ai pas entendu votre question.
Eh bien, si vous pouvez la répéter. C'est pas du tout un souci. À l'instant, l'auditrice précédente parlait des parents notamment et du poids des enseignants face aux parents. Moi, je me demandais si vous aviez eu vous des parents parfois qui sont venus vous voir en vous disant pourquoi vous allez dans cette direction-là. C'est pas exactement comme ça qu'il faudrait enseigner ce genre de choses aux enfants. Est-ce que c'est ce genre d'exercice a du sens? Est-ce que vous avez eu affaire aux parents parfois? Est-ce qu'il a fallu leur expliquer aussi à eux et parfois de manière assez efficace, on va le dire comme ça?
Écoutez, moi, le projet que j'ai mené là cette année, j'ai rencontré une adhésion totale parce que c'était centré sur la liberté d'expression qui en fait était donnée aux enfants qui sont en contact permanent avec les professeurs. Parce que comment ne pas donner la parole aux élèves alors que ils sont en contact avec les professeurs qui les construisent dans une république qui les fonde par les valeurs? Et moi, j'avoue que j'ai eu un soutien total des parents. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de chance, un soutien aussi de la principale et de mon administration. En revanche, ma collègue précédente, effectivement, la hiérarchie institutionnelle, l'éducation nationale, on vit dans une solitude qui est vraiment, mais vraiment dramatique pour le corps enseignant. Et je crois que ça, c'est un problème qui est très important, qu'il va falloir gérer. Mmh. Parce que écouter la parole de ses élèves, c'est une chose. Aimer ses élèves, c'est une chose. Leur donner la parole pour qu'ils s'expriment. Mais surtout, les professeurs doivent être soutenus pour mener ces... pour rattraper, si vous voulez, pour aller chercher les cœurs perdus de la République, parce que, disons-le bien fort, nous sommes au cœur de la République, et il est anormal que des personnels de l'éducation nationale, des professeurs, des gens qui sont instruits, qui sont des citoyens avant tout, ne soient pas capables d'appréhender la laïcité et les valeurs de la République, mais ça devrait être une obligation, cette formation, pour toutes les personnes, et pas que pour le personnel éducatif, mais pour toute la communauté éducative. Parce que, il faut argumenter, il faut répondre quand vous êtes attaqué sur ce que vous êtes. Et nous, ce sont les élèves qui ont répondu, et d'une manière magistrale.
C'est marrant que vous ayez employé le terme de solitude, Gilles Roumieux, parce que c'est aussi celui de Marion. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas pour tout ce déroulé jusqu'à maintenant qui est extrêmement réaliste. Moi je voulais simplement pointer que il fallait quand même noter dans tout ce paysage éducatif une forme en fait d'anamorphose présentée qui transforme un petit peu la réalité pour nous montrer que finalement ben, nous pouvons faire les choses parce qu'elles vont se dérouler telles qu'on les imagine. Alors pas du tout. Hein, dans la réalité, il y a une grande hétérogénéité en fait dans les dynamique des établissements. Moi, je suis enseignante depuis 25 ans. Je suis enseignante dans une corporation qui est très mal reconnue, qui s'appelle la Corporation des professeurs documentalistes. Et j'enseigne dans l'enseignement agricole, donc d'autant plus évidemment caractérisé justement dans la faiblesse de la représentation. Mmh. Donc ce que je voulais dire, c'est que je pense que nous avons tous enseignants, que l'on soit du ministère de l'Éducation nationale ou de celui de l'agriculture, des missions qui sont chevillées complètement aux valeurs de la République, c'est indéniable. On ne fait pas en dehors, on le fait au quotidien. Enseigner les valeurs, c'est du quotidien. C'est pas l'instant, c'est pas un hommage, une commémoration. Par contre, il faut travailler la dimension, la portée. Et le seul problème, c'est on le fait avec une grande fragilité dans l'accompagnement hiérarchique. Il n'y a, malheureusement, c'est pas un objet de marketing politique, cet enseignement des valeurs. C'est pas quelque chose, il faut du temps scolaire, il faut prendre le temps de bien faire les choses, il ne faut pas que ça soit superficiellement traité. Et malheureusement, dans ce temps scolaire dont nous disposons très peu, nous n'avons pas cet accompagnement nécessaire. Moi, quand j'entends parler de formation, excusez-moi, moi je sors d'un IUFM, j'ai même fait une école qui s'appelle l'ENSFEA à Toulouse, qui est spécialisée justement dans cette formation d'enseignants pour l'éducation, l'enseignement agricole. Et je ne comprends pas qu'effectivement ça ne fasse pas partie de la culture générale d'un enseignant à la base. Il faut savoir quand même que nous sommes le plus souvent majoritairement représentés par des gens qui sont contractualisés. Je n'ai rien contre ces contrats, au contraire, ils nous rendent service. Mais rendre service parce qu'il y a des problèmes de moyens à la base, c'est quand même parfaitement hypocrite. Donc remettons un enseignement convenable, une formation convenable pour les enseignants. Déjà, préparons-les à avoir cette carrure nécessaire, parce que le monde est méchant. Et c'est ce qu'on enseigne aux élèves. J'entendais parler tout à l'heure de bisounours. Effectivement, le monde n'est pas un monde de bisounours. Rêvez, les jeunes. Mais ouvrez-vous effectivement à tout ce qui se présente aussi en termes de réalité. On n'est pas dans un jeu vidéo. Donc il faut absolument parader nos missions, parader nos enseignements et ne pas nous refiler la patate chaude en nous disant « Mais si chérie, vous allez vous occuper des jeunes, c'est facile, il suffit de lire des textes et puis vous allez écouter une petite chanson et ça fera l'affaire. » Non, non, cessons la passivité et essayons justement de rendre cela constructif, réaliste et surtout pas bancal.
Merci. Pardon, non, je vous en prie Marion, finissez votre phrase, je voulais pas vous interrompre au milieu de votre phrase.
Non, tout simplement, je suis terriblement attachée à ces valeurs. Elles font réellement le service public que l'on défend tous les jours. Et je vous dis, c'est du quotidien, c'est pas l'apanage de cet hommage que nous avons. Demain, vous savez, on sera véritablement, je pense, à la fois touchés, un peu mal à l'aise également, parce que justement, nous faisons du bricolage tous les jours. Tous les jours pour cela, parce que nous n'avons pas les moyens matériels, les moyens psychologiques également, pour pouvoir effectuer cette présence nécessaire. Les jeunes ont besoin d'envergure en fait.
Là pour le coup, merci Marion, merci qu'on puisse laisser les invités vous répondre. Merci vraiment pour votre témoignage. Carole Zerbib, deux choses, il y a pas assez d'accompagnement effectivement là-dessus, j'imagine que vous serez d'accord avec le témoignage de Marion et avec ce qu'elle vient de nous dire.
Voilà, je vous l'ai dit.
Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle vient tout juste d'être formée, Marion. Elle en sort, là. Donc, ça veut dire que, et nous avons passé 2015, hélas, nous avons passé les attentats d'hiver. On pourrait imaginer que, là, c'est rentré à l'intérieur des IUFM, etc. Visiblement, non.
Alors oui, c'est pas encore tout à fait ça. Je vous l'ai dit, il faut un plan de formation massif et ambitieux en formation initiale et continue. Vous voyez là, moi par exemple, je suis rentrée dans l'éducation nationale en 1991 en tant qu'assistante d'éducation. Enfin à l'époque c'était surveillante. Je n'ai eu aucune formation sur les valeurs de la République. Bon, je n'étais que surveillante. J'ai passé le concours de conseillère principale d'éducation en 1998. Je n'ai eu aucune formation durant l'année qu'a duré ma formation. Rien sur les valeurs de la République et la laïcité. Et quand je suis devenue personnelle de direction en 2006, nous avons quand même 2 ans de formation, je n'ai eu aucun module de formation sur la laïcité et les valeurs de la République, alors que je suis censée quand même les incarner. Heureusement que...
Et est-ce que ça a été ajouté, parce que hélas c'est comme ça que ça marche souvent, est-ce que ça... Alors, ou plutôt pourquoi ça n'a pas été ajouté ou comment ça a été ajouté dans un cursus comme le vôtre, par exemple, pour quelqu'un qui va devenir directeur, directrice maintenant, depuis 2015
Alors, je ne sais pas, mais en tout cas jusqu'à présent, ce que je voulais vous dire, c'est que on a 30 ans de retard en fait, et que les enseignants aujourd'hui, les personnels de direction qui sont quinquagénaires ou quadragénaires, n'ont pas eu cette formation. Et je pense que c'est beaucoup en fait de la formation, de l'auto-formation, ou alors voilà la chance d'avoir baigné dans un milieu qui était sensible à ces questions-là, ou une sensibilité personnelle qui fait qu'on arrive à être sensibilisé à cette cette question des valeurs de la République.
Est-ce que il y avait un début dans la question de Marion qui parlait de l'hétérogénéité dans les établissements? On a l'impression, quand on vous écoute, vous, quand on écoute Gilles Roumieux et ce qu'il fait lui, qu'effectivement, il n'y a pas un établissement qui se ressemble. Alors, à la limite, c'est normal. Mais il y en a qui sont remplis d'idées, qui en font beaucoup. D'autres, au contraire, où il ne se passe pas grand-chose, en fait. Et là aussi, il y a une inégalité qui me semble assez criante.
Oui, ça va dépendre des personnels, de la sensibilité des personnels à ces questions-là, et puis peut-être aussi de certains territoires. Peut-être qu'il y a des territoires où il est plus difficile d'aborder ces questions-là qu'ailleurs, et où on va trouver davantage d'autocensure. Mmh. J'ai travaillé 20 ans en Seine-Saint-Denis, et je peux vous dire qu'il y a des professeurs d'histoire-géo qui m'ont avoué ne plus aborder ces questions-là parce que c'était trop compliqué.
On va y venir dans un instant avec une question au territoire. En attendant, j'ai entre les mains la question de Frédéric qui est à Pau sur franceinter.fr. Gilles Roumieux, c'est intéressant parce que la question de Frédéric, parce qu'elle montre l'image et parfois la fausse image qu'on peut avoir à la fois de votre enseignement et ce qu'est d'enseigner la laïcité. Il nous dit, ne faudrait-il pas désacraliser les religions dans les écoles et les remettre à leur place, nous dit-il textuellement. Comment enseigne-t-on les religions à l'école? Moi, j'aimerais savoir ce que vous voulez répondre à Frédéric de Pau, Gilles Roumieux.
Écoutez, la religion, c'est enseigné sous le cadre historique, c'est-à-dire qu'il n'est pas évidemment dogmatique. Mais je voudrais quand même dire que la laïcité, c'est pas simplement une question de... Bien évidemment, c'est la neutralité religieuse, mais c'est aussi la neutralité en termes d'idées, de convictions, pour pouvoir avoir un dialogue qui soit ouvert
Et c'est pour ça qu'elle est intéressante, je trouve, la question de Frédéric, parce que immédiatement, les gens associent très souvent laïcité et religion. Les deux vont difficilement séparer pour la plupart de ceux qui nous écoutent.
Oui, mais je pense que c'est un tout. Il faut pas lier exclusivement la laïcité à la religion, même si la loi de 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Mais une école laïque, c'est une école où on fait preuve de neutralité, que ce soit en termes d'idées politiques ou en termes d'idées religieuses. Mais je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Nous sommes des autodidactes de la laïcité et des autodidactes de la République, puisque finalement... C'est des convictions qui sont menées, ce sont des projets, et la sensibilité, l'inégalité de projets entre les établissements, je voudrais quand même apporter ma voix et mon éclairage sur ça. Comment pouvez-vous motiver des personnels quand ils n'ont aucune considération pour les projets qu'ils mènent, ou qu'il n'y a jamais une onde de félicitations ou même de rétribution? Moi, j'ai passé quasiment pour ce projet l'équivalent d'une année de cours en dehors de la salle de classe pour réaliser ce projet, et je n'ai eu aucune rétribution financière. C'est de la conviction pure. Alors, il y a des personnels, ils sont découragés, ils rentrent dans une sorte de normalité, et quand on est enseignant, c'est la transmission, c'est la relation à l'élève, c'est la transmission de la passion, et surtout c'est la relation avec les élèves. On arrive à une élévation mutuelle, on se construit ensemble, on évolue ensemble. Et le ministère, s'il y avait une once de soutien, s'il y avait une once de considération, s'il y avait une écoute, on irait, je pense, beaucoup plus vite. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, moi ça fait 32 ans que j'enseigne, on est dans un système qui devient inerte, souvent verrouillé, où il est très difficile de pousser les murs de sa classe et de faire avancer les choses. Et ce n'est dû qu'à des initiatives personnelles et dû à des convictions profondes.
Et c'est en cela, je pense, que notre amie auditrice tout à l'heure parlait effectivement d'hétérogénéité réellement dans les établissements. Vous aviez parlé tout à l'heure, Carole Zerbib, de différences et de difficultés parfois dans les territoires. Je voudrais qu'on écoute Alice à ce sujet. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
On vous écoute ?
Oui, donc effectivement, l'hétérogénéité, elle existe, puisque dans mon établissement scolaire, il ne se passera rien demain. Des collègues ont déjà évoqué le fait de ne pas avoir envie d'en parler non plus, parce que par peur des conséquences, pour ne pas avoir envie de... pas de vague.
Et qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la mort de Samuel Paty chez vous, Alice? Est-ce qu'il y a quand même une discussion qui a pu avoir lieu? Ou est-ce que même là, on a freiné des cas de fer et on n'a pas été parfois à la confrontation?
Freiner des cas de fer, pas vraiment, mais enfin, service minimum.
Et là, donc, ce sera minimum de chez minimum, en fait. Il ne se passera rien chez vous.
Oui, voilà. Rien.
Merci Alice pour ce témoignage. On entend que vous êtes en voiture, Carole Zerbib. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Alice? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? J'imagine qu'il y a des professeurs qui nous écoutent en ce moment et qui sont aussi dans le même cas qu'Alice.
D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monsieur Roumieux tout à l'heure. Il a raison. C'est bien grâce à l'engagement de certains qu'il se passe des choses et que les choses se font. Alors sur l'hommage qui doit être rendu demain à Samuel Paty, il y a
et
eu quand
parfois
même...
certains ne le feront pas parce que c'est trop compliqué. C'est ce que nous dit Alice dans sa zone de Seine-Saint-Denis.
Alors que là, ça a quand même été une commande institutionnelle qui certes est arrivée tardivement, mais quand même, voilà, on nous a demandé d'organiser des choses pour cet hommage. Alors, peut-être que certains collègues ne sont pas suffisamment engagés, ou peut-être qu'ils ont peur, ou peut-être que... Voilà, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue et d'échange sur cette question-là dans l'établissement concerné pour organiser quelque chose. Mais en fait, c'est des petites choses qu'on nous demande d'organiser. Vous voyez, un hommage avec un petit discours, avec des lectures de textes, avec les élèves, avec une minute de silence, ça ne semble pas compliqué, mais peut-être que dans certains établissements, ça peut être compliqué.
Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, que vous comprenez, Gilles Roumieux? On en est très loin chez vous, dans votre établissement Jean Racine d'Alès dans le Gard, mais voilà des situations devant lesquelles certains de vos collègues sont confrontés et leur réponse, les pauvres, c'est de rester les bras ballants en se disant de toute façon je ne vois pas comment je peux faire différemment.
Bien, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont pas suffisamment armés pour pouvoir répondre à ces problématiques et à ces thématiques. Tout simplement, alors, ils se sentent mal à l'aise. Parfois, il y a aussi manque de courage aussi. Il y a de la peur qui est toujours là. Parce que un an après la mort de Samuel Paty, rien n'a vraiment changé pour la considération du rôle du professeur. Nous, par exemple, l'hommage qu'on va faire dans mon établissement... Il y a des professeurs qui ne savent pas comment s'y prendre. C'est pas de la mauvaise volonté, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Nous demain, nous avons la rectrice de l'académie de Montpellier qui va venir honorer le travail réalisé par les élèves pour la brochure Touche pas à mon professeur. Cette commande institutionnelle, ça me gêne ce terme commande ou commande hiérarchique. On a l'impression qu'on est dans un système vertical et militaire où il faut répondre à une demande, mais c'est tous les jours qu'on travaille. Moi, ça fait un an que je travaille sur ce projet et ça se poursuit parce que j'ai un autre projet où on va réaliser un jeu des sept familles sur le rôle du professeur. Nous, on va recevoir la rectrice. Moi, je n'ai pas voulu faire quelque chose de conventionnel sur la liberté d'expression. Les élèves qui ont participé à ce projet, pas tous évidemment, mais certains, vont engager un dialogue avec les enfants du collège qui sont là. Aujourd'hui, ils sont lycéens, ceux qui ont participé à notre projet. Ils vont expliquer pour quelles raisons ils ont mené ce projet, qu'est-ce que ça leur a apporté, et dans une démarche réflexive avec l'impact que ça a eu, et qu'est-ce que ça a changé chez eux. Parce qu'en fait, tout ça, je pense que ces questions-là... les aborder frontalement, vous pouvez recevoir une réponse très violente, mais c'est en expliquant, parce qu'on pourrait appeler une pédagogie de détournement ou de contournement par l'image du projet, que vous arrivez à inscrire des valeurs et des principes qui sont très profonds et qui sont très ancrés dans un bon nombre d'élèves.
Et moi, ce que je trouve intéressant dans votre projet, c'est que précisément, il y a une forme de contournement intelligent. Gilles Roumieux, la brochure, elle s'appelle « Touche pas à mon professeur ». Donc c'est par ce bout-là qu'on va le chercher, effectivement, sur la relation, le respect dû au professeur et à l'enseignement du professeur.
Tout à fait. Le professeur, c'est la figure centrale. Et d'ailleurs, vous savez, quand j'ai recueilli tous les textes, j'ai beaucoup pensé à mes collègues. J'ai beaucoup pensé à mes collègues qui sont seuls et qui sont démunis. Et dans la brochure, vous avez en italique quelle représentation ils ont de leur professeur. Mais elle est merveilleuse, la représentation qu'ils en ont. Parce que pour eux, on incarne la liberté. On est là, c'est ceux qui vont les élever, c'est ceux qui vont leur ouvrir l'esprit, c'est ceux qui leur tendent la main. C'est ça notre mission. Alors, il faut que notre hiérarchie, le ministère de l'Éducation nationale, embraye cette dynamique, nous tende la main, nous permette des tremplins pour qu'on puisse aller très vite et plus rapidement et qu'on puisse surtout, les élèves, moi, ce qu'ils m'ont dit dans la démarche réflexive, on veut avoir la parole. On ne veut pas recevoir un enseignement vertical sans cesse.
Et vous leur avez donné la parole, et je sais, j'en suis sûre que dans certains établissements, dans la plupart des établissements, dans le vôtre aussi, Carole Zerbib, les élèves ont la parole, l'auront demain, en tout cas s'ils le souhaitent. Je voudrais quand même signaler un outil pédagogique pour les professeurs, les clés de la laïcité sur l'omni.fr. C'est une série de 4 épisodes de 3 minutes qui ont été écrites par Thomas Legrand. Donc je ne les ai pas écoutés, mais...
on va le faire.
Eh ben voilà, faites-le, en tout cas pourquoi pas. Je vous remercie vraiment tous, merci pour vos très nombreux appels, et même si on perd du temps, et je sais que je suis en train de me faire, il y a le Tristan Gratalon, le réalisateur qui me fait les gros yeux, mais je le remercie pour toute la semaine et pour les suivantes et les précédentes. Amélie Stadelman aussi, Nathalie Poitvin également, qui sont à la programmation, Clémentine Ducasse qui s'occupe du site, Ludovic Asselot et Arnaud Caillé également à la technique ce soir. Merci à tous.